Vous écoutez RTL.
Thomas Hugues.
Bientôt les troupes d'Attila déferleront sur les Alpes.
Anaïs Bouton.
Cette fois encore, tu te battras pour Valentinien.
La curiosité est un vilain défaut.
Je suis un homme honnête, Honoria, fidèle à son serment.
Je veux la liberté et la grandeur. La mienne avec celle de l'Empire. On verra bien qui sera le plus fort. Honoria ou le destin.
RTL.
Attila, le fléau de Dieu, Attila, le roi des Huns, de lui, on connaît en général cette réputation de violence, de terreur, mais il a été aussi un homme amoureux avec cette Honoria dont on parle dans l'extrait de ce film qui date de 1954 avec Sophia Loren dans le rôle d'Honoria. Et c'est cette histoire, cette double histoire que l'on va raconter avec l'historienne Amélie de Bourbon-Parme. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue. Vous publiez dans le Parisien Week-end un article consacré à Honoria, possible fiancé d'Attila. On va raconter son destin tout à l'heure, mais d'abord, c'était qui Attila ? Faut nous rappeler ça. On est à quelle époque et les Huns, ils viennent d'où ?
Alors, on est au 5e siècle après Jésus-Christ. Attila, c'est le fameux roi des Huns qui a marqué énormément son époque et jusqu'à aujourd'hui, parce que c'est le seul qui a fait l'unité du peuple des Huns, qui était avant lui divisé entre ses frères et qui, après lui, n'a pas survécu avec la même force.
Lui, et donc, ils viennent d'Asie,
ils viennent du Kazakhstan, de la mer Caspienne, et on a souvent dit que c'était de la Mongolie, mais en fait, c'est plus près que ce qu'on pensait.
Et ça veut dire quoi son nom, Attila ?
Eh bien, ça veut dire petit père.
Alors, c'est sympathique, c'est un
paraît
doudou,
gentil
hein
comme ça, oui, tout à fait. Mais pourtant, la langue unique, la langue qu'il parlait, est une langue qui flirte avec le turc, avec le hongrois, qu'on n'arrive pas très bien à déceler. Bon, il parlait aussi le latin, le grec. Enfin, c'était quand même quelqu'un d'une élite romanisée de l'époque, malgré tout, même si c'était un chef barbare qui a marqué pour sa cruauté et ses massacres.
Et pour continuer de se situer au 5e siècle, ça représente encore quelque chose ?
Alors, on n'est pas encore, justement. Ouais. C'est pas la France, c'est la Gaule. Et elle est quand même sous supervision, voire sous domination romaine, puisqu'à l'époque, c'est une colonie romaine qui est administrée, ou en tout cas qui est gérée par Aetius, qui est un général romain qui avait la charge de cette colonie. Mais le pays est quand même fortement divisé aussi par les envahisseurs visigoths qui occupent toute l'Aquitaine. Et donc, il n'y a pas d'unité du tout à l'époque. Et c'est tout le sujet, justement. Et le moment qu'on a choisi de raconter est celui où Attila est à deux doigts de faire alliance avec l'Empire romain contre les Visigoths.
Là où le cheval d'Attila a foulé le sol, l'herbe ne repousse plus. On a tous entendu cette phrase. Je ne sais pas d'où elle sort, d'ailleurs, de quand elle date.
Mais écoutez, c'est aussi un mythe qui a été très popularisé sous la Troisième République. C'est les bouquins de Jules Ferry aussi qui ont beaucoup insisté là-dessus dans nos manuels scolaires. Oui. Mais en réalité, il était barbare, si, parce qu'en fait, c'est un avait une tactique qui était vraiment de massacrer et surtout de rançonner les peuples qu'il traversait et auprès desquels il s'installait, puisqu'il n'avait pas la même habitude que les Visigoths, vraiment de s'installer, de cultiver, de cohabiter avec les autres populations qu'ils envahissaient. Donc c'est peut-être de ça, et puis c'était surtout des cavaliers extrêmement forts et puissants qui étaient des archers. Et donc, il n'y avait pas des armées si grandes que ça, ils étaient 10 000 cavaliers à peu près. Donc 10 000, bon, ça paraît énorme, mais ce n'était pas non plus si colossal, et qui surtout avaient le talent, c'est de tirer à l'arc, et de cibler et de viser juste. Donc oui, ils terrorisaient les foules
Parce que 10 000 cavaliers au sommet d'une colline...
Ça fait du monde, en effet, mais c'était pas des centaines de milliers. Quoi. Ils étaient juste extrêmement agiles et c'est vrai qu'ils avaient quand même l'habitude de massacrer les populations.
D'accord, donc au départ, ces raids, c'est en Orient.
Alors, c'est d'abord en Orient et l'Empire romain. Alors, il faut resituer aussi un petit peu, puisque à l'époque, l'Empire romain étant quand même en pleine décadence, sous la poussée des barbares, des peuples germaniques à la frontière. Et la fameuse Rome qu'on a connue à l'époque de César, c'est quand même globalement très effrité. Et là, on a deux empires. On a l'Empire romain d'Occident d'un côté, avec la capitale qui est Ravenne, et de l'autre, l'Empire romain d'Orient, avec la capitale de Constantinople. Et on est à quelques années, c'est en 476, que l'Empire romain d'Occident s'écroule vraiment et qu'il ne restera plus que l'Empire romain d'Orient avec le fameux Empire byzantin. Et donc Attila arrive dans ce moment-là, déjà un peu de fragilité de l'Empire, et donc il va être un des responsables sans doute de son écroulement.
Est-ce qu'il y a des villes françaises qui sont tombées
Alors oui, parce qu'en fait...
Lors d'un raid d'Attila.
Justement, il a tenté de faire s'écrouler l'Empire romain d'Orient, et puis voyant que ça résistait quand même plutôt bien, il s'est tourné vers le nord et il est remonté vers toutes les villes de Mayence, de Metz, il est allé jusqu'à Reims, et là c'est la fameuse bataille des champs cataloniques en 451 face au général Aetius qui est victorieux. Donc il lui impose une énorme défaite et Attila, entre guillemets, n'y survivra pas puisque quelques années plus tard, il va mourir d'une mort un peu stupide, d'une infection nasale, je crois que c'est ça, dans le lit de sa deuxième femme. Et c'est vrai que là, bon, c'est la fin de son histoire. Et comme je vous le disais tout à l'heure, après lui, il n'y aura pas la même puissance concentrée des chefs Huns.
Aujourd'hui, Attila et les Huns.
RTL.
Sire, sire, nous allons tous mourir.
Les Huns d'Attila sont à nos portes, sire.
Thomas Hugues.
Combien ils sont?
Qui ça?
Comment qui ça? Les Huns.
Anaïs Bouton.
Je sais pas, il y a Attila et un autre, je crois.
Non mais les Huns, ils sont combien? 3000?
Ça dépend. Attila, vous le comptez comme un Hun?
Bah évidemment, je le compte pas comme un Ibère.
Bah, il y a Attila et un Hun, ça fait deux.
La curiosité est un vilain défaut.
Ah, oh, quel plaisir de réentendre Kaamelott, Alexandre Astier, c'est merveilleux. Oui. Alors Attila, bah oui, c'est le sujet, c'est la surprise du jour de notre curiosité.
Le 1 et le plusieurs à la fois.
Le 1 et le plusieurs, parce que c'était aussi un cœur d'artichaut. C'était un chef de guerre épouvantable, mais, enfin épouvantable.
Hein, comme tant d'autres à l'époque.
Il n'était pas très tendre quand même, hein. Voilà, on va pas quand même raconter l'histoire.
Alors, il est roi des Huns, qui a régné entre 434 et 453. Après Jésus-Christ, est-ce qu'on peut dire que c'était l'homme le plus puissant d'Europe?
Mais oui, d'ailleurs, on l'appelait l'empereur d'Europe. C'est un titre qui nous
ferait rêver Angela Merkel.
Qui en ferait rêver plus d'un aujourd'hui. Et qui. Alors oui, c'est en lisant, je vous avoue, je ne suis pas une experte non plus d'Attila, mais par contre, c'est en lisant le roman d'une personne qui a écrit sur Honoria, qui s'appelle Judith Houzé, et qui a raconté l'histoire de cette femme étonnante qui a séduit, lorsqu'elle était très jeune, à la cour de Ravenne, ce fameux Attila, qui était venu pour se faire un peu acculturer. Voilà, ça fait partie des élites de l'époque. Et donc, il avait beau être un barbare, il était fasciné par la culture, la civilisation romaine. Et donc, la capitale ayant été installée à Ravenne, il était venu pour apprendre ses lettres aussi. Et il a rencontré cette fameuse Honoria.
Il ressemblait à quoi? On a une idée?
Alors, il n'était pas très séduisant. Enfin, en tout cas, tel qu'on le raconte.
Selon nos critères.
Selon nos critères. Mais bon, il était puissant et sans doute très charismatique. Donc ça joue aussi. Et il était apparemment petit, trapu, avec une barbe un peu clairsemée, des yeux noirs enfoncés et un physique assez mat, on va dire.
Mais il avait
le peuple d'Asie.
Oui, mais justement, il avait le charme de ceux qui viennent d'ailleurs.
Exactement. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Et d'ailleurs, Honoria a eu un vrai coup de cœur. Alors qui est Honoria?
Mais oui, c'est une princesse.
C'est une princesse issue de la lignée des empereurs romains qui sont en place donc depuis l'origine. Elle est la fille de Galla Placidia. Alors cette femme est une femme incroyable qui mériterait elle aussi plus qu'une chronique, elle mériterait un livre, qui a été la femme d'un général Constance qu'elle a épousé donc en deuxième partie de sa vie. Elle a eu cet enfant Honoria, une ravissante jeune femme, et un garçon, un petit garçon qui s'appelle Valentinien et qui sera le futur aussi empereur romain. Et donc Honoria est la sœur aînée et elle arrive après que sa mère ait aussi une histoire à elle-même assez étonnante, puisqu'elle a eu un premier mariage avec un roi wisigoth, puisqu'il y a eu un premier sac de Rome en 410. Enfin, c'était pas le premier, mais en tout cas, c'est un des plus marquants. Et elle avait été capturée par ce roi wisigoth, elle l'avait épousé, et elle n'avait pas eu d'enfant, ou en tout cas, elle a eu un enfant, mais il est mort très jeune. Et elle a été après rapatriée dans l'Empire, et elle a eu cette petite fille Honoria. Donc Honoria est le fruit quand même d'un passé assez tumultueux de sa mère.
Et, quand et comment elle rencontre Attila pour la première fois?
Elle le rencontre donc à Ravenne. Et ce qui est passionnant à voir, c'est que son petit frère, le petit frère d'Honoria, est donc promis à succéder à son oncle et à devenir empereur. Et il n'aura qu'une terreur, Valentinien, c'est que sa sœur épouse un homme puissant et puisse réclamer, revendiquer une part de l'héritage impérial. Et donc il va l'exiler, en tout cas la mettre à distance dans l'Empire romain d'Orient, à Constantinople, parce qu'elle va commettre quelque chose d'assez, en tout cas, choquant à l'époque, c'est qu'elle va tomber amoureuse de son chambellan, qui est un affranchi, qui s'appelle Eugène, et donc tombe en folle amoureuse après avoir vu qu'avec Attila, c'était pas possible. Elle est éloignée à Constantinople pour être éloignée de celui qu'elle aime, qui n'est pas du tout du même statut social qu'elle.
Mais Amélie, vous n'avez pas répondu à mes questions. Ils se rencontrent où première fois?
À Ravenne. À la cour, justement.
Puisque mais c'est un coup de foudre aussi.
Quand même, c'est un coup de foudre. Ils sont très jeunes tous les deux. Ils ont à peine quelques années d'écart. Et lui commence sa vie de chef barbare, et elle est une princesse qui pourrait pourquoi pas épouser comme sa mère la première.
Et pourquoi d'ailleurs un roi barbare? Pourquoi elle l'épouse pas?
Eh ben parce que ça ne se faisait pas quand même à l'époque si facilement. Il fallait au moins une menace, au moins un sac de robe ou quelqu'un d'un peu menaçant pour convoler en juste noce. Mmh. Et donc elle ne l'épouse pas, et c'est surtout son frère qui veille au grain, qui ne veut pas qu'elle épouse qui que ce soit, qui puisse justement créer une alliance trop forte et menacer à lui son pouvoir. Parce que comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, l'Empire romain à l'époque est vraiment en train de se déliter, et donc il n'a pas envie qu'il y ait une remise en cause de son pouvoir avec sa sœur qui épouse le roi des Huns. C'est pas du tout possible.
Donc elle va se retrouver dans un couvent-prison, c'est ça ?
Voilà, elle part à Constantinople, elle est enfermée.
Et c'est là qu'on... c'est là qu'on retrouve Honoria, la princesse amoureuse d'Attila quelques années plus tard, avec un fol espoir
De renouer.
Oui.
Elle espère renouer avec Attila.
Voilà, elle va avoir une seconde chance.
RTL. En 445, Bléda décède, probablement assassinée par Attila, qui devient ainsi le seul et unique roi des Huns. Honoria, la sœur de l'empereur d'Occident, Valentinien III, lui ayant demandé son aide pour échapper à un mariage arrangé.
La curiosité est un vilain défaut.
Tous les hommes devront s'agenouiller sur son passage. Et lui ne saluera jamais aucun homme. Il fera des Huns une seule et même nation et se battra avec l'arme de guerre du Tout-Puissant.
Anaïs Bouton, Thomas Hugues.
Et Attila, au programme de notre curiosité sur RTL, Attila le chef de guerre, surnommé l'empereur d'Europe, le fléau de Dieu, l'homme amoureux aussi. Et c'est cette romance surprenante que l'on découvre avec notre invitée, l'historienne Amélie de Bourbon-Parme. On a décrit Attila physiquement. En revanche, on ne sait pas s'il vivait dans le luxe. Alors, c'était quoi la capitale du royaume des Huns? Et est-ce que Attila avait beaucoup de signes extérieurs de richesse? Allez, on va poser ça comme ça.
Alors, on va dire que leur royaume, le cœur de leur royaume, c'était en Hongrie. Et qu'il était installé avec un cœur assez, assez classique, où ils installaient tout leur quartier général de soldats, et qu'ils vivaient dans une... assez simplement, en fait. Bon, d'abord, c'était un homme qui avait des mœurs assez frustes, on va dire. Mais l'entourage, son entourage à lui, par contre, était assez romanisé, et on a dit que c'était une des cours les plus raffinées de l'époque.
Là aussi, c'est surprenant, par rapport à l'image qu'on a.
Ils avaient des vaisselles, des objets avec des pierreries, des soies précieuses. Enfin, ils s'étaient entourés, et en tout cas dans un luxe qu'on ne peut pas soupçonner quand on voit les histoires qu'ils ont eues, les conquêtes et les massacres. Et donc Attila, par contre, faisait peut-être figure d'être un homme un tout petit peu plus frustre. Et apparemment, il mangeait dans de la vaisselle en bois, il s'habillait en blanc. C'était un homme qui n'avait pas l'air d'être particulièrement attaché à ses apparences, et qui était obsédé quand même par avoir une descendance. Donc il a eu
Une
première femme.
Ah oui.
Bon, parce que c'est ce que je racontais tout à l'heure. Il a eu un coup de foudre pour Honoria quand il était jeune, mais il n'a pas pu l'épouser, contrairement à ce qu'il avait voulu à l'époque. Et du coup, il a convolé en juste noce avec une femme de son environnement. Et il a eu des enfants. Mais il va se passer quelque chose, c'est que sa femme va tomber malade, et surtout, il va y avoir des circonstances qui vont faire qu'il va y avoir pour Honoria une possibilité d'essayer de renouer avec son amour.
Oui, parce que vous racontez qu'en 449, elle a failli retrouver son roi des Huns. Pourquoi?
Alors là, toute cette histoire, il faut comprendre, c'est l'arrière-plan de la lutte entre l'Empire romain, les chefs visigoths qui occupent une partie de la Gaule, et aussi la lutte de l'Église pour asseoir le christianisme. Et les visigoths sont des Ariens, l'Empire romain est christianisé, depuis Théodose Ier, qui est le grand-père d'Honoria, le christianisme est la religion officielle de l'Empire, et le pape, qui était à l'époque Léon Ier, se dit, il faut absolument que je m'allie avec un chef, quitte à ce qu'il soit même païen, tel qu'Attila, pour aller contre la puissance visigothe qui est arienne. puisque c'est une forme d'hérésie du christianisme à l'époque. Et donc il conçoit un projet, et donc c'est une forme de machination, d'aller voir Honoria et de faire en sorte qu'elle épouse, pourquoi pas Attila, pour renforcer la puissance d'Attila.
Et alors c'est elle qui va en quelque sorte faire le premier pas.
Du coup, elle va écrire une lettre à Attila, elle ne sait pas comment s'y prendre, et l'émissaire du pape lui dit écrivez-lui une lettre. Et alors là, elle va lui redéclarer son amour, elle écrit une lettre, et qu'est-ce qu'elle met dans cette lettre ? Deux anneaux, qui sont les anneaux qu'il lui avait donnés quand il l'avait quitté à Ravenne. Et donc c'est pour attester de toujours la vigueur de ses sentiments, lui montrer que voilà, c'est pas une simple demande comme ça qui lui est passée par la tête.
Et comment réagit Attila en recevant cette lettre ?
Et alors, on suppose, en tout cas moi, en tant que romancière, je me dis qu'il est bouleversé, qu'il se dit que voilà, ça y est, il va pouvoir enfin avoir cette union avec cette princesse. Donc forcément, il joint l'utile à l'agréable, on va dire. Et tout de suite, il va envoyer une demande à la cour, à Ravenne, auprès du frère d'Honoria, Valentinien. Et ça va déclencher une espèce de levée de bouclier et de panique du frère qui se dit « Alors si ma sœur s'allie avec un chef 1, alors je suis cerné et je vais ou perdre mon pouvoir ou en tout cas être affaibli. »
Donc le mariage échoue une seconde fois, d'une
certaine
façon.
Et le mariage échoue une seconde fois et Honoria est mariée de force avec un fonctionnaire, un vieux
barbon,
fonctionnaire sinistre de la cour romaine. Donc leur histoire d'amour échoue à nouveau. Donc c'est vrai que c'est ce que je raconte là n'est pas très drôle, mais en même temps, ça prouve à quel point des histoires d'amour pouvaient avoir vraiment existé à l'époque, et puis surtout que ça aurait failli peut-être décider de la...
Et lui, Attila, qu'est-ce qu'il devient ?
Eh bien alors, Attila, lui, malheureusement, il va perdre sa femme, puisqu'il l'avait perdue juste avant la demande en mariage, il la perd pour de vrai, et il va se remarier pour de bon avec une femme de son environnement, et il va décéder pendant sa nuit de noces, d'ailleurs. Donc, malédiction. Et donc, c'est en 454, et là, son empire, après lui, revient à ses fils, qui, comme je le disais tout à l'heure, n'auront pas le même succès, le même charisme que lui. Mmh. Donc voilà, ça va plus ou moins, la force des uns va se déliter à la suite de sa mort. Et voilà, c'est vrai qu'on aurait pu rêver à une belle, à une belle union entre ces deux mondes. Ouais. Le chef 1 et la princesse chrétienne romaine.
C'était une belle histoire.
Ouais.
Et elle n'a pas eu lieu.
Elle
ce mariage n'a pas eu lieu.
Mais c'est une réelle tentative et elle a failli avoir lieu. Voilà.
Merci beaucoup, Amélie de Bourbon-Parme. Votre article est à lire dans le Parisien Week-end et c'est en partenariat avec RTL. À bientôt.
RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Anaïs Bouton, Thomas Hugues.